Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Une fois n'est pas coutume, nous enregistrons cette émission in situ dans un lieu chargé d'histoire, un lieu à la fois politique, un lieu à la fois religieux et artistique. Il s'agit d'un lieu mondialement connu, il s'agit du château de Versailles. Nous entamons avec Mathieu Davina, qui travaille donc au château de Versailles, une série de 4 émissions. Mathieu Davina, bonjour.
Bonjour.
Nous partons à la découverte du grand appartement du roi. Et la visite du grand appartement commence sur un endroit où a été détruit l'escalier qui menait à cet appartement.
Oui, nous sommes au niveau maintenant du salon du billard, anciennement emplacement du grand escalier du roi, autrement appelé l'escalier des ambassadeurs. Alors, cet escalier faisait le pendant à l'escalier de la reine qui conduisait. Donc là, nous sommes du côté nord de la cour de marbre. Et à présent, depuis 1752, nous sommes dans des appartements qui ont été construits puisque Louis XV a eu un certain nombre de filles. Et comme une seule des 8 filles s'est mariée, lorsque les 7 revinrent à la cour, il fallut bien les loger. Et pour cela, on a détruit l'escalier des ambassadeurs qui vraiment prenait énormément de place, n'était plus énormément utilisé non plus, pour cette raison avait un coût d'entretien très très important. Mais sous Louis XIV, on est vraiment au débouché de l'escalier des ambassadeurs, devant ces superbes portes que nous allons emprunter pour vraiment pénétrer dans le grand appartement du roi. Donc portes ouvragées d'une façon magnifique, qui sont les plus belles portes du château, puisque c'est ici que débarquaient les ambassadeurs et que dès leur arrivée à Versailles, il fallait vraiment leur en mettre plein la vue, d'où la richesse de ces portes.
Le grand appartement, Mathieu, commence avec le salon de Vénus.
Oui, en fait, il y a une première antichambre qu'on appelle le salon de l'abondance, mais le véritable grand appartement du roi commence vraiment ici, au niveau de Vénus. Alors tout d'abord, un mot sur ce grand appartement qui est élaboré à partir de l'enveloppe de Levaux dès l'année 1670, donc côté nord du jardin, avec cette façade baroque, au contraire de la façade brique et pierre côté cour, et avec cette enfilade de salons qui reprend une thématique de l'appartement des planètes pour un petit peu reprendre cette thématique qui est quand même très très à la mode à l'époque, notamment avec le Palazzo Pitti à Florence. Et chaque salon prend le nom du dieu ou de la déesse qui est représenté au centre du salon. Donc ici nous sommes dans le salon de Vénus, donc vous avez Vénus qui est représentée au centre de ce salon.
La mythologie est très présente sous le règne de Louis XIV.
Alors, au début du règne de Louis XIV, justement, on a ici des références à l'antiquité grecque et romaine très, très importantes. C'est-à-dire que Charles Lebrun, qui a pensé tout ce programme iconographique, a fait énormément de références à l'antiquité. On a ici des scènes d'Alexandre, de Pyrrhus, mais on a également de nombreuses antiques, à la fois des antiques originales, c'est-à-dire vraiment de l'antiquité romaine. On a des antiquités qui sont des copies vraiment du XVIIe siècle. On a des antiques auxquelles on a ajouté des toches du XVIIe siècle. Et donc vraiment toutes ces références à Louis XIV pour le comparer à Auguste, notamment avec une statue dans la niche de ce salon de Vénus, d'une statue en pied très très connue de Louis XIV habillée à la romaine, en général romain, par Jean Varin, sculpteur très important de l'époque.
Après le salon de Vénus, Mathieu, nous nous trouvons dans le salon de Diane, là encore une référence à la mythologie.
Oui, nous sommes dans le salon de Diane, donc c'est ici aussi que débouchait l'autre volet de l'escalier des ambassadeurs. Au contraire de l'appartement de la reine qui a été modifié, ici nous sommes dans un décor vraiment qui est resté tout à fait Louis XIVien, avec des marbres polychromes, décor très très chargé du XVIIe siècle, très riche. Louis XV et Louis XVI n'ont jamais osé toucher à ce décor d'appartement. Et donc dans ce salon de Diane, ce qui est intéressant de noter, c'est aussi un superbe buste au centre de Louis XIV, signé du Bernin.
Un buste jeune.
Oui, on est en 1665. Le cavalier Bernin est arrivé en France en 64-65 à grand renfort de monnaie. On lui avait demandé d'imaginer un plan pour le Louvre. Et finalement, on n'a pas retenu ces solutions puisque la France commençait aussi à s'imposer face à la richesse de l'Italie. Néanmoins, le cavalier Bernin a laissé un superbe buste de Louis XIV qui a non pas fait un scandale, mais qui a un petit peu choqué à l'époque, puisque le roi y est représenté avec un regard dans le vague, il regarde dans l'air, il n'a pas vraiment une position vraiment de majesté, il a un drapé qui est très négligé, et on a considéré à l'époque que ce n'était absolument pas une statue royale. Alors le cavalier Bernin avait commencé à cette époque-là une statue équestre du roi qui n'est arrivée finalement qu'en 1685 à Versailles. Le Bernin est mort en 1680 et il avait commencé une statue équestre qui n'arrive à Versailles qu'en 1685. Or, lorsqu'elle arrive à Versailles, le roi la trouve tellement peu à son goût pour être aimable qu'il fait retailler le visage par son sculpteur Girardon. Et finalement, il n'aime tellement pas la statue qu'il la fait mettre à l'autre bout de la pièce d'Odès Suisse, où on a une copie actuellement et l'original a rejoint l'orangerie.
On retrouve dans ce salon de Diane les attributs de la monarchie, la fleur de lys bourbonienne, la couronne royale, le double L, le soleil. C'est une constante du château, bien évidemment une constante du château de Versailles.
Oui, on a une véritable constante de tous ces insignes royaux, tous ces entre guillemets régalia, parce que à la suite d'un colloque, on a vu que ce n'était plus les régalia qui étaient utilisés, mais vraiment les insignes royaux. Alors, juste un mot aussi sur ces différentes pièces. On est dans un appartement ici de parade, c'est-à-dire un appartement public qui est vraiment ouvert aux tout-venants. À partir du moment où Louis XIV installe sa cour à Versailles en 1682, on est vraiment dans un lieu public où n'importe qui est bien habillé peut venir à Versailles à condition d'être bien habillé. Bon, et aussi à l'unique condition que le roi ne soit pas présent dans ses appartements. Et autre utilité de cet appartement, donc Louis XIV l'a un tout petit peu utilisé vraiment au début de son règne, au moment où son appartement intérieur que nous visiterons prochainement, son appartement d'étiquette plutôt, soit aménagé à partir de 1684, il a un petit peu occupé les pièces vraiment du côté jardin, côté parterre d'eau. À partir de 1682 se tiennent dans cette enfilade de salons ce qu'on appelle les soirées d'appartement. C'est-à-dire où le roi reçoit de 18h à 22h, vraiment à peu près de la Toussaint à Pâques, l'ensemble de sa cour pour des divertissements. Alors si on veut schématiser, on est un peu au casino, c'est-à-dire qu'on a toutes les tables de jeu dans un décor somptueux entre l'espace de vraiment jusqu'à 1689-90, au moment où on aura les fontes d'argenterie pour soutenir l'effort de guerre. On a vraiment ici un mobilier d'argent extraordinaire, des chandeliers, des scabellons, des buffets en argent massif qui ornent ces différents salons. Vraiment, chaque pièce a une utilité, notamment le salon de Mars dans lequel nous allons pénétrer tout de suite, était vraiment ce qu'on appelait l'assemblée des joueurs.
Nous entrons donc dans le salon de Mars qui, Mathieu, est une pièce centrale. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus volumineuse que le salon de Diane et les salons précédents que nous avons vus.
Oui, nous sommes dans une pièce centrale et si nous sommes toujours dans la logique d'appartement, puisque cette suite de salons a été voulue comme un véritable appartement, même si c'est un appartement public, on est dans le salon de Mars, donc pièce centrale et comme son nom l'indique, était dédiée à la salle des gardes, puisque Mars, dieu de la guerre, donc nous sommes ici au niveau de l'ancienne salle des gardes. Alors au temps de Louis XIV, on est dans les soirées d'appartement que je viens d'évoquer, vraiment ici où ce qu'on appelait l'assemblée des joueurs, c'est-à-dire là où toutes les tables étaient dressées pour les jeux lors des soirées d'appartement. On a également deux tableaux qui se trouvaient exactement à cet emplacement vers 1682-1684, puisque par la suite ils ont été déménagés, puisque derrière ces tableaux on a ouvert des tribunes pour les musiciens, c'est-à-dire que la pièce a servi également de salle de bal, et les tableaux ont rejoint les murs latéraux. Alors on va un peu s'arrêter sur ces tableaux. On a tout d'abord sur la droite un tableau de Véronèse, donc bon, c'est une copie, l'original est au Louvre, les pèlerins d'Emmaüs, et de l'autre côté de la cheminée, on a la tente de Darius par Lebrun, donc qui est un original. Et pourquoi ces deux tableaux ? Vraiment, Louis XIV tenait à mettre en regard ces deux tableaux pour montrer que son premier peintre, Charles Lebrun, était capable de faire aussi bien que les peintres italiens, Véronèse. Donc c'est vraiment l'idée de concurrence vis-à-vis de l'Italie qu'on a rencontré tout à l'heure avec le Bernin, qu'on retrouvera dans la Galerie des Glaces, notamment avec les miroirs. Donc c'est vraiment une idée de concurrence, de mettre en regard ces deux tableaux. Par ailleurs, le tableau de Lebrun, qui passait pour un des chefs-d'œuvre vraiment à l'époque, tant au niveau des couleurs qu'au niveau des expressions des personnages, puisque vous savez peut-être que Lebrun a écrit un traité dans lequel il avait dessiné l'ensemble des expressions humaines, et dans ce tableau, on retrouve vraiment toute une palette d'expressions de la part des hommes, avec la surprise, l'étonnement, la douleur, la tristesse, et voilà. Sinon, vous avez d'autres tableaux qui ont été ajoutés par la suite, notamment un portrait de Marie Leszinska et en regard le portrait de Louis XV, son mari.
Après le salon de Mars, nous passons dans le salon de Mercure, et ce salon de Mercure a une particularité puisqu'il a un lit en son centre. À quoi servait ce lit ?
Oui, alors nous sommes dans le salon de Mercure, autrement appelé aussi chambre de parade. Au moment où cet appartement a été conçu, au début des années 1670, il y a eu un changement d'attribution des pièces. Normalement, la chambre du roi était la pièce suivante où nous allons pénétrer, qui était le salon d'Apollon, qui était exactement symétrique à la chambre de la reine de l'autre côté de la Galerie des Glaces. Et ici, nous étions au salon de Mercure, au niveau de la chambre du trône. Or, en 1678, avec la naissance de la Galerie des Glaces, le début de la construction de la Galerie des Glaces, cela perturbe tout l'appartement intérieur du roi, et donc il y a une inversion des pièces, et ici on passe en chambre de parade, d'où ce lit pour évoquer cette idée. En effet, le lit est vraiment un symbole très très fort sous l'Ancien Régime, puisque c'est le lieu où dort le roi, c'est vraiment, on pense au lit de justice, etc. C'est un symbole très très fort. La chambre du lit, c'est pour évoquer en fait les audiences royales, notamment les audiences des ambassadeurs qui se tenaient dans cette pièce pour certains des ambassadeurs, puisque le roi recevait soit directement dans sa chambre, sa véritable chambre, soit ici dans son grand appartement. Il faut imaginer aussi pendant la période qui allait jusqu'à 1690, donc vraiment avant les fontes d'argent, un superbe balustre d'argent massif. Ici, on est dans un mobilier très très riche en argent, des scabellons, des chandeliers, des girandoles, des buffets d'argent. À ce propos, il y aura d'ailleurs une exposition prochainement à Versailles au mois de novembre, vraiment sur tout le mobilier d'argent, sur quand Versailles était meublé d'argent, et qui donnera la sensation de ce que pouvait être Versailles à ce moment-là. Alors ici, réception d'ambassadeurs au temps de Louis XIV.
Le salon de Mercure, Mathieu, là encore, est orné de deux magnifiques tableaux en majesté de Louis XV.
Oui, on a encore un portrait de Louis XV vraiment dans sa tenue de sacre avec le manteau d'hermine, tous les attributs royaux, la couronne. Et en face également, Marie Leszinska avec également le manteau d'hermine. Donc deux tableaux des souverains plus jeunes que dans le salon de Mars précédemment.
Et en dessous de ce portrait en majesté de Louis XV se trouve une immense cheminée. Il y a des cheminées dans toutes les pièces du château, Mathieu.
Oui, alors dans la plupart des pièces de l'appartement du roi, il y a des cheminées qui malheureusement n'étaient certes pas suffisantes pour le chauffage du château. Alors autant Louis XIV passait pour quelqu'un de très 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 peu frileux. En revanche, par la suite, pour ses courtisans, il fera installer des braseros, ce qu'on appellerait des braseros, qui sont vraiment des chauffages d'appoint pour chauffer les pièces.
Avant-dernier salon du grand appartement du roi, il s'agit du salon d'Apollon, qui cette fois est orné par deux portraits en majesté, celui de Louis XIV faisant face bien connu à celui de Louis XVI.
Oui, alors nous sommes dans le salon d'Apollon qui accueillait initialement la chambre du roi, puisque le roi était assimilé évidemment au soleil, donc à Apollon, donc il y avait toute la thématique. On voit notamment Apollon sur son char au centre du salon. Cette chambre qui est devenue par la suite, lorsqu'on a interverti avec Mercure, qui est devenue la salle du trône, où en fait le roi pouvait aussi avoir des audiences. On a différents tableaux, dont ce célèbre tableau de Hyacinthe Rigaud, qui est une copie ici, dont l'original est au Louvre, et qui a une histoire vraiment très très importante. Ce tableau a été fait en 1700, au moment où le deuxième petit-fils de Louis XIV est nommé comme roi d'Espagne en novembre 1700. Et Louis XIV demande à son peintre de lui peindre son petit-fils, puisque son petit-fils partant en Espagne, il ne le reverra plus. C'est-à-dire qu'un souverain ne quitte jamais son pays. Et Louis XIV veut garder un souvenir de son petit-fils. Donc il fait faire un portrait qui se trouve actuellement dans le Salon de l'Abondance et qui est le pendant de ce portrait de Hyacinthe Rigaud de Louis XIV en majesté. Et Louis XIV trouve son propre portrait tellement beau qu'il veut en conserver une copie. Donc il en fait exécuter un second. Donc c'est la raison pour laquelle on a un original qui est au Louvre et un original qui est au musée du Prado que le duc d'Anjou a emporté lorsqu'il est devenu Philippe V d'Espagne. On a également à gauche du trône, c'est-à-dire en face de la fenêtre, un portrait du roi David jouant de la harpe par le Dominicain, qui était vraiment le tableau préféré de Louis XIV, qui représente le roi David jouant de la harpe.
Dans cette pièce, le salon d'Apollon, il y a ce trône. Alors, il ne s'agit absolument pas du trône d'époque. Hein. C'est un trône qui a été ajouté ici, qui date du XIXe siècle, puisque le trône original, lui, a été fondu.
Un des trônes originaux, effectivement, c'est-à-dire qu'à l'époque de Louis XIV, au moment du grand faste de l'appartement où tout le mobilier est d'argent, on a ici un trône monumental de 2 mètres 80, je crois, sur lequel le roi recevait les ambassadeurs. On est dans les pièces les plus richement décorées avec du mobilier d'argent à foison et vraiment une luminosité, des girandoles, des centaines de bougies pour éclairer l'appartement. Et un trône magnifique qui va être reconstitué notamment pour une très très belle exposition en préparation qui va se tenir à partir du 19 novembre au château, qui s'appelle « Quand Versailles était meublé d'argent », où vraiment on donnera un semblant de ce que pouvaient être ces fameuses soirées d'appartement avec du mobilier qui viendra des autres cours européennes, puisque évidemment tout le mobilier français a été fondu avec des prêts très importants de Rosenborg, de différentes collections européennes. Vraiment très très riche exposition pour redonner l'idée de la richesse de cet appartement.
Vous évoquiez les bougies. Dans votre livre, c'est un point qui fera l'objet d'un développement, votre livre sur l'intendance, qui sortira l'année prochaine, en 2008. On imagine des milliers et des milliers de bougies consommées pour l'éclairage.
On a effectivement des contrats de bougies très très importants. On sait que par exemple pour l'opéra au XVIIIe siècle, il y avait par soirée plus de 3000 bougies qui étaient consommées. Et lorsqu'on sait qu'une livre de bougies coûtait une semaine d'un salaire moyen d'un ouvrier, on imagine évidemment le coût que ça pouvait représenter.
Une fois passé le salon d'Apollon, nous nous trouvons dans le salon de la guerre, donc entre le salon d'Apollon et la galerie des glaces. Le salon de la guerre, il vient en miroir du salon de la paix.
Oui, nous sommes au bout de l'appartement du roi, ici dans ce salon de la guerre, ancien grand cabinet, et qui devient salon de la guerre au moment où on construit la galerie des glaces, avec un décor donc très très riche, vraiment très très guerrier, avec des armures, un médaillon de Coisevaux, où on voit le roi triomphant, foulant aux pieds ses ennemis, avec également les ennemis enchaînés aux côtés qui portent le médaillon. Donc vraiment une symbolique guerrière très très importante. Donc salon beaucoup plus petit que l'ancien grand cabinet qu'on appelait le salon de Jupiter, au moment où on construit la galerie des glaces. Alors pourquoi construction de la galerie des glaces ? Auparavant, nous étions sur une terrasse à l'italienne. Or, le climat français n'étant pas le climat italien, il y avait énormément d'infiltration d'eau et cette galerie était devenue vraiment perméable et était très très difficile d'entretien. Par ailleurs, il y avait plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'était vraiment pour les questions d'entretien. Et une autre des raisons, c'était aussi pour avoir un grand axe de circulation entre l'appartement du roi au nord et l'appartement de la reine au sud, puisqu'effectivement, il y avait des axes de communication en interne, mais qui n'étaient pas prévus pour beaucoup de personnes. D'où la fermeture de cette partie-là et la transformation en galerie des glaces. Donc galerie des glaces, évidemment, en raison des 357 miroirs qui font face aux arcades ouvertes pour donner l'impression d'une multiplication à l'infini des reflets. Et on est encore une fois dans l'opposition entre la France et l'Italie, puisque c'est la première fois qu'on fait des miroirs aussi grands. L'Italie n'arrivait pas à faire des miroirs de cette taille-là à l'époque.
Nous terminons cette émission, Mathieu, par cette galerie donc, qui va nous mener à terme vers l'appartement d'étiquette dans lequel se situe la chambre du roi.
Dans cette galerie qui fait 73 mètres de long, qui vient d'être restaurée après près de 3 ans de travaux, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elle est vraiment située au milieu. Nous sommes dans l'axe est-ouest, puisque l'orientation du château est très très importante. Alors ça ne tient pas tant à Louis XIV, mais plutôt aux architectes de Louis XIII qui avaient orienté le château. Et lorsque nous sommes au centre de la galerie, notamment au-dessous du tableau célèbre, le premier tableau qu'il faut lire, puisque le plafond se lit comme une bande dessinée, on a en 1661, le roi gouverne par lui-même. Et vraiment, à l'emplacement de ce tableau, nous sommes dans l'axe est-ouest et à peu près vers le 25 août, c'est pas exactement la date, plutôt le 23 août, mais on va dire que le 25 août, c'est toujours valable, on a le soleil qui se couche vraiment dans l'axe du Grand Canal, tandis qu'il se lève à l'est, c'est-à-dire dans la chambre de Louis XIV que nous allons visiter lors de notre prochaine émission.
Merci Mathieu pour cette présentation du grand appartement du roi. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.